Le journal vous est présenté par Anne Fauquemberg.
Bonsoir. Quelques heures avant le référendum d'autodétermination en Catalogne, des milliers de manifestants soutiennent l'unité espagnole dans plusieurs villes du pays. Quant aux séparatistes, ils se réorganisent en réponse aux dernières pressions de Madrid. Le gouvernement central continue de jouer la stratégie de l'isolement, va nous dire Annabelle Grelier au début de ce journal. L'Europe, au cœur de l'université de rentrée du Modem dans le Morbihan, le volontarisme d'Emmanuel Macron salué par Guy Verhofstadt, président des libéraux et démocrates au Parlement européen. Nous l'entendrons. Elles n'ont pas vraiment résonné, les casserolades de la France insoumise contre la politique du chef de l'État n'ont pas mobilisé cet après-midi. Reportage à Marseille dans un instant. Enfin, focus sur la visite du secrétaire d'État américain Rex Tillerson en Chine. La relation avec la Corée du Nord absorbe évidemment les débats, va nous dire Dominique André à la fin de ce journal. En Espagne, le gouvernement central est plus que jamais déterminé à empêcher le référendum d'autodétermination en Catalogne, scrutin qui sera organisé maintenant dans moins de 24 heures. Madrid a fait fermer dans le calme ce matin la moitié des 2300 bureaux de vote, mais de nombreuses écoles censées accueillir les isoloirs demain restent occupées en ce moment même. Bonsoir Annabelle Grelier.
Bonsoir Anne.
L'administration catalane dénonce aussi une intervention de la police au centre des technologies de l'information et de la communication ce matin. Pas de confirmation de Madrid ce soir, mais ce qui est sûr, c'est que les autorités centrales font tout pour empêcher la communication autour de ce scrutin.
Oui, c'est un peu la guerre de tranchées sur le plan de la communication. Le tribunal supérieur de justice de Catalogne a ordonné hier soir à Google de supprimer l'application utilisée par les indépendantistes pour diffuser des informations relatives au référendum. À Xlantien, des comités de défense du référendum se sont organisés à Barcelone, quartier par quartier, et distillent les informations par le biais de la messagerie cryptée Telegram. Des informations très vite relayées tout simplement par le bouche à oreille qui marche très bien, lui, à Barcelone. Il faut dire que les deux plus grosses organisations indépendantistes ne sont pas des débutantes. Hein. Elles possèdent de gros moyens financiers et techniques et surtout un vivier de milliers de bénévoles officiels sur lesquels elles peuvent compter sans réserve. Et puis, la répression exercée par Madrid depuis quelques semaines a renforcé la mobilisation à travers toutes les couches de la société catalane. Des étudiants, des agriculteurs, des pompiers ont manifesté ces jours-ci leur soutien et les initiatives populaires ne manquent pas. Comme ici, par exemple, vous entendez peut-être l'ambiance autour de moi. Je me trouve dans une école du quartier de Gracia où des parents d'élèves et des habitants du quartier ont décidé de passer la nuit. Ils occupent ce qui sera demain un bureau de vote, une occupation festive pour empêcher que la police ne boucle les lieux. Pour la petite anecdote, l'école se trouve juste en face de l'autre côté du trottoir d'un poste de la police régionale, Los Mossos d'Esquadra, qui ne sont jusque-là pas venus les inquiéter. C'est dire si les ordres de Madrid, pour le moment, ne sont pas vraiment mis à exécution. La garde civile pourrait bien évidemment s'en charger demain, mais les partisans du référendum s'organisent. Ici, un comité de quartier prendra la relève dès 6h du matin. La consigne a été donnée largement à Barcelone de se présenter au bureau de vote bien avant l'ouverture officielle, prévue à 9h, et un manuel de résistance pacifique circule sur Internet. Un manuel incitant les militants à rester calmes et surtout ne pas céder à la violence.
Merci Annabelle Grelier pour toutes vos précisions. Vous étiez en direct de Barcelone. Des milliers de personnes sont également mobilisés en ce moment même dans tout le pays pour défendre cette fois-ci l'unité de l'Espagne. C'est le cas à Madrid, place de Cibeles, manifestation à l'initiative d'un collectif conservateur. La situation en Catalogne, elle a été évidemment scrutée depuis l'université de rentrée du Modem à Guidel dans le Morbihan. Discours de son président, François Bayrou, ce midi. Il demande à ses 47 députés de veiller à l'attente d'équilibre des Français dans la mise en œuvre des réformes du gouvernement. Dans l'Assemblée, il y avait aussi Guy Verhofstadt, le président du groupe des libéraux et démocrates au Parlement européen, groupe auquel appartient le Modem. Il explique qu'Emmanuel Macron et sa majorité sont une vraie chance pour la construction européenne.
Ce que vous faites et ce que cette majorité présidentielle est en train de faire au niveau européen est tout à fait exceptionnel. Le discours qu'Emmanuel Macron a fait il y a quelques jours en témoigne, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle l'Union européenne, ce n'est pas une union. C'est une confédération d'États-nations encore basée sur la règle de l'unanimité qui ne peut pas fonctionner dans un monde qui sera un monde basé sur des empires. Et pour différentes choses, au niveau économique et industriel, pourquoi on n'a pas ce qu'on appelle des champions européens ? La réalité est, par exemple, que s'il y a un jeune qui a une idée, qui a développé quelque chose, il veut le lancer sur Internet, en Europe, il a d'abord besoin de 28 autorisations, dorénavant 27 autorisations, donc ça va dans le bon sens déjà. Soit. Et en plus, 125 différents contrats il doit faire avec tous les opérateurs mobiles que connaissent l'Europe. C'est pour ça qu'on n'a pas de Google, pas d'Amazon, aucune entreprise au niveau d'Internet et des technologies qui est capable. Et donc c'est ça qu'il faut changer. Et cette possibilité existe maintenant. Il faut faire ce qu'on n'a jamais pu faire, c'est réaliser le rêve des pères fondateurs de l'Union européenne. C'est maintenant ou c'est jamais. Merci.
Des propos recueillis par Stéphane Robert. Le président de la région Grand Est démissionne de ses fonctions. Philippe Richert, du parti Les Républicains, quitte également la tête de l'association des présidents de région. Il l'a annoncé ce midi à Strasbourg. Philippe Richert avait accédé en janvier 2016 à la tête de cette région, fusion de l'Alsace, de la Lorraine et de la Champagne-Ardenne. Selon la presse régionale, l'homme accusé d'avoir accepté la disparition de l'Alsace était fatigué de ses critiques. L'appel de la France insoumise pour organiser des concerts de casseroles aujourd'hui n'a pas reçu grand écho. Une cinquantaine de militants à Paris, une centaine à Marseille, pourtant fief de Jean-Luc Mélenchon. Le reportage sur place d'Olivier Martoc.
11h moins le quart, une dizaine de militants de la France insoumise, parmi lesquels Odile, installe banderoles et pancartes.
L'idée, c'est de faire prendre conscience aux citoyens d'un petit peu le contenu précis des ordonnances. Donc c'est sous forme de vrai, faux. Il faut qu'ils soulèvent un petit papier blanc pour avoir la réponse.
11h moins 5, une centaine de manifestants actifs déballent son matériel. Il n'y a pas que des casseroles.
C'est pour entartrer les gens du MEDEF. On apporte la tarte. Aujourd'hui, elle est vide, mais demain, elle sera pleine et elle repartira à la figure.
C'est une bouteille de champagne et je vais marquer dessus champagne pour les riches et nous, il nous reste juste les bulles.
11h tapante, la casserolade débute. De nombreux touristes et badauds s'arrêtent pour faire des selfies. Certains soutiennent ce type de manifestation de colère sans vouloir pour autant rejoindre la France insoumise.
Mais là, je passais par hasard, je comprends qu'ils rouspètent parce que franchement, c'est casser la France. Mais non, je ne manifeste pas parce que je vois qu'on ne parle pas non plus des retraités.
Grosse déception pour les curieux, Mélenchon n'est pas venu.
Reportage à Marseille, signé Olivier Martoc. Enfin, en Chine, c'est une visite importante pour l'avenir des relations sino-américaines. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson est arrivé à Pékin ce matin. Il prépare la visite du président Donald Trump, prévue en novembre prochain. Les tensions avec la Corée du Nord absorbent évidemment les débats, Dominique André.
Rex Tillerson est à Pékin à un moment stratégique pour le couple sino-américain qui doit trouver la solution pour ramener le calme dans la région. Dénucléariser la Corée du Nord est une évidence pour les deux puissances du Pacifique, mais le secrétaire d'État américain et le régime chinois doivent se mettre d'accord sur les moyens d'y parvenir. Des progrès ont été accomplis cette semaine. L'administration Trump, qui a accusé il n'y a pas si longtemps la Chine de ne pas faire assez pression sur Pyongyang, a applaudi l'application des sanctions de l'ONU par la Chine. Pékin a annoncé jeudi que les entreprises nord-coréennes installées sur le territoire chinois avaient 120 jours pour fermer. Dès son arrivée, Rex Tillerson a été reçu au Palais du Peuple, place Tiananmen, le cœur du pouvoir du régime communiste chinois. Il reste encore des divergences à examiner. Pékin défend toujours son idée d'un double moratoire, arrêt des essais nord-coréens et des manœuvres militaires américaines dans la région, ce dont Washington ne veut pas entendre parler.
Les précisions à Pékin de Dominique André. Et puis Rex Tillerson, justement, affirme en marge de sa rencontre avec Xi Jinping que Washington est en contact avec Pyongyang pour sonder la capacité du régime à dialoguer sur son programme nucléaire. La météo, demain matin, dimanche 1er octobre, ciel dominé par les nuages et la pluie. Seule la frontière est du pays et les bords de la Méditerranée bénéficieront de belles éclaircies. Et les températures, 11 à Strasbourg, 14 à Lyon, 15 à Lille et Bordeaux, 16 à Cherbourg et jusqu'à 20 degrés à Marseille. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia. La technique, c'était Nicolas Slimani.